Bonjour à tous, je suis Julie Calmus, co-responsable de la Commission internationale à l'ABF, co-responsable avec Éléonore Clavreul, que vous connaissez aussi sans doute. Je vais vous présenter notre première invitée. Navira Djou, vous êtes spécialiste en innovation frugale. Vous avez grandi à Pondichéry. Vous avez étudié à Central Paris et à Yale. Vous avez enseigné à l'Université de Cambridge. Vous avez publié un best-seller, l'innovation Djougad, ou comment faire plus avec moins et un moins et un plus nourri d'une très grande expérience et connaissance des pays en voie de développement. Vous êtes un conférencier que l'on ne présente presque plus, mais que je présente quand même, spécialiste d'une organisation frugale et agile à n'en pas douter. Navira Djou, nous sommes ravis et honorés de vous recevoir et je vous cède donc la parole.
Alors, effectivement, je suis très ravi d'être ici ce matin avec vous pour parler, déjà démystifier, vous rassurer que la frugalité, ce n'est pas un vilain mot. Et puis aussi associer le mot frugalité avec deux autres mots qui sont l'agilité et l'ingéniosité. Alors, je vais commencer avec mon propre expérience avec la frugalité qui date des années 70, quand je grandissais à Pondichéry dans le sud de l'Inde, où dans les années 70, l'eau était rationnée. Et moi et mes frères, on se levait à 5 heures du matin pour remplir deux seaux d'eau qu'on utilisait le reste de la journée pour se laver et pour cuisiner. Donc très tôt, j'ai appris l'importance de la sobriété, un mot qui a fait une rentrée fracassante de notre culture il y a à peu près 2 ans maintenant. Simplement, moi, j'ai vécu dans on peut appeler ça une bidonville urbaine, où j'ai réalisé que la sobriété peut rimer avec un autre mot, qui est générosité. Je voyais des enfants très pauvres dans cette bidonville qui partageaient le peu qu'ils avaient avec les autres avec beaucoup de générosité. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, quand on mettait une limitation aux ressources, vous enlevez la limitation à la créativité, comme le démontrent ces deux jeunes gamins qui jouent au cricket, le sport favori des Indiens, avec un vieux pneu en guise de piquet. Donc j'ai passé 15 dernières années de ma vie à étudier en fait comment les entrepreneurs dans les pays émergents arrivent en fait à sublimer, à transmuter en fait les contraintes en opportunités, telles que Mansour Prajapati, qui est un potier de formation qui a développé un réfrigérateur conçu entièrement en argile, qui préserve des fruits et légumes pendant plusieurs journées, ne nécessite pas d'excité et qui est 100% biodégradable. Donc finalement, c'est quelqu'un qui a apporté la valeur à sa communauté locale en s'appuyant sur une ressource interne qui était sa formation de potier. Il n'a même pas fini son bac, simplement il avait des compétences, des skills comme on dit en anglais. Qui d'ailleurs, je ne vais pas faire la politique, mais on parle beaucoup d'éducation, mais je crois qu'en anglais ça sonne mieux. Mais le mot clé qu'on voit dans les pays du Sud aujourd'hui, c'est « skilling ». Ce n'est pas la même chose qu'enseigner. On reviendra là-dessus à la fin, quand j'ai quelques suggestions à vous offrir sur l'avenir des bibliothèques. Mais en fait, déjà Mansour Prajapati, que j'adore, qui est un peu mon héros personnel, démontre qu'une rareté de ressources, finalement, ce n'est pas une fatalité. On peut, en s'appuyant sur notre ingéniosité individuelle et collective, transformer ça en une opportunité, non pas pour s'enrichir, c'est important, on reviendra là-dessus, mais pour une utilité sociale, pour le bien commun. Et c'est ça qui m'a ensuite conduit à aller étudier en fait à travers le monde comment dans d'autres pays en voie de développement, mais aussi de plus en plus dans les pays du Nord, des entrepreneurs ingénieux s'attaquent en fait à des problèmes majeurs, qui soient la santé, l'énergie, l'éducation, etc., la finance, pour apporter des solutions frugales. Donc j'en ai un exemple très concret. Il y a des millions de bébés qui sont nés prématurément dans le monde, particulièrement dans les pays du Sud. Quand j'habitais dans... Je ne dois pas sourire, mais c'est tellement énervant, il faut sourire des fois. Quand j'habitais dans la Silicon Valley, alors déjà, il faut savoir que ça, c'est un incubateur, on connaît très bien. En Occident, on utilise ça pour garder en vie les bébés, garder à température constante les bébés prématurés. Alors ça coûte déjà à la moyenne 20 000 $. Okay, mais je suis allé voir le labo d'un équipementier de dispositifs médicaux qui a même développé un incubateur pour 100 000 €. Parce qu'il y avait un DVD intégré dedans et il y avait des senseurs partout. Okay. C'était une version high-tech d'un incubateur. Simplement, on ne s'est pas posé la question, c'est quoi la fonction basique d'un incubateur, qui est de garder à température constante un bébé prématuré. Donc, 5 étudiants de Stanford University qui participent à un programme qui s'appelle en anglais, Design for Extreme Affordability. C'est la conception pour l'extrême abordabilité. De dire finalement, on prend n'importe quelle solution comme ça, qui est assez onéreuse pour les pays du Sud, et on essaie de créer une alternative qui n'est pas quelque chose qui est désossé, une version light de ça, mais on repense fondamentalement la forme pour répondre à la même fonction. Et le résultat, c'était ça, qui s'appelle Embrace, qui est une couveuse, qui remplit la même fonction. Ça contient une matière qu'on appelle phase change material, qu'on peut mettre sur une plaque chauffante. Ça réchauffe, c'est quelque chose comme de la cire, ça fond, et vous remettez ça à l'intérieur de ce sac, et ça préserve le bébé à température constante pendant 8 heures d'affilée, et ensuite vous réchauffez de suite. Et cette solution ingénieuse coûte uniquement $200. 1% de coût des incubateurs contre un excitant, et en plus, ça n'a pas besoin d'exciter. Mais il y a un avantage supplémentaire, c'est l'idée de faire mieux avec moins. Ce n'est pas uniquement moins. C'est mieux parce que ça permet à la mère de garder le bébé contre son corps, ce qu'on appelle le kangaroo care, qui est important non pas pour la survie physique de l'enfant, mais pour le bien-être mental de l'enfant quand il devient adulte. Ça a été prouvé scientifiquement. Et aujourd'hui, cette solution a déjà sauvé la vie de plus de 450 000 bébés à travers le monde et est déployée en Ukraine où les naissances prématurées ont quadruplé depuis le début de la guerre, l'invasion russe. OK? Donc, deuxième message aussi, c'est qu'une solution frugale, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement low cost ou low tech, c'est high touch, high value, okay, qui apporte plus de valeur et peut même aider à créer des liens entre êtres humains. Et l'innovation frugale est aussi utilisée pour démystifier des mythes comme quoi les personnes pauvres ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à l'énergie propre. Ou des voitures électriques, comme on entend de plus en plus. Hier, j'ai vu dans Le Monde, avant, tous les soirs, avant de me coucher, je dois quand même lire l'actualité. Et j'ai lu un truc, après, je n'ai pas dormi. C'est comment, en fait, le lobby de l'automobile va tout faire pour casser la voiture électrique, en disant, voilà, c'est trop cher, c'est polluant, etc. Mais ce faisant, ce qu'on ne montre pas dans les médias, c'est qu'est-ce qui est en train de parler des pays du Sud, c'est qu'en fait, les produits écologiques en voiture électrique, l'innovation n'est pas dans la technologie. L'innovation d'un grand pays d'ingénieurs comme la France, l'innovation n'est pas que technologique. Elle doit aussi être dans le niveau des modèles économiques et ce qu'on appelle l'innovation des usages. Donc, il faut se mettre dans la peau du client et dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre accessible, non pas uniquement abordable. L'autre mot important des pays du Sud, c'est l'accessibilité. Vous pouvez avoir un produit très abordable, mais si ce n'est pas accessible pour la personne, par exemple, voiture électrique qu'on peut louer, mais si j'habite dans la zone périurbaine, je n'ai pas accès à ça. Donc, il ne faut pas que ça devienne un truc éco-bobo limité aux citadins. Donc, tout ça pour dire que quand Hari Chande est retourné en Inde après avoir obtenu un doctorat en ingénierie environnementale de MIT, il a décidé en fait d'apporter l'énergie solaire au départ pour quelques centaines de ménages ruraux. Alors quand je dis ménages ruraux, il faut vraiment comprendre que c'est vraiment ruraux. Hein. C'est vraiment des villages qui sont tellement reculés que même les bus n'y vont pas. Okay. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est en fait former des jeunes dans ces villages pour installer et maintenir ces solutions solaires. Donc ça peut être des lampes solaires, des panneaux solaires, etc. Et aujourd'hui, ils ont 1 million de ménages ruraux qui sont équipés avec ces solutions-là. Et il a même obtenu le prix Ramon Magsaysay, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les innovateurs sociaux. Mais ce qui est intéressant, c'est l'innovation en termes de modèle économique, parce qu'au lieu d'avoir un abonnement mensuel fixe comme nous en Occident, en fait, ces gens-là peuvent se procurer l'énergie propre avec des micro-paiements quotidiens faits avec le portable. Parce que c'est l'autre information importante, c'est que dans le pays du Sud, le verre est moitié plein. Parce qu'en fait, l'Afrique subsaharienne, par exemple, il y a 80% des Africains aujourd'hui ont un portable. Donc, c'est comment on utilise l'abondance de la connectivité mobile pour pallier à une rareté d'accès à des ressources basiques, comme l'électricité, la finance, etc. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Et ça va plus loin. Alors, ça, c'était la première phase. Mais vous voyez comme quoi il faut continuer à innover. Ensuite, la question, c'est de dire, mais finalement, apporte l'énergie propre Demain, je vous le dis, hein, ça va venir. Ça a été, il y a 20 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Carr qui a écrit ça. Aujourd'hui, on dit l'IA, waouh, l'énergie propre, waouh. Mais dans 20 ans, ce sera aussi banal que vous allumez un truc. Ah, ça y est, la lampe s'allume, quoi. Ça ne va pas être révolutionnaire. Donc, la réflexion, c'est en fait, ce n'est pas uniquement comment j'apporte une solution frugale. C'est l'équivalent de donner un poisson à quelqu'un. C'est comment je l'apprends à pêcher. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à Richandé ? Il se dit, mais finalement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'emploi dans ces villages. Donc, comment on peut les aider à former pour qu'elles deviennent auto-entrepreneuses ? Donc, il a créé en fait un catalogue. C'est plus qu'un catalogue, c'est des vraies solutions. 175 différentes façons d'utiliser l'énergie propre pour développer votre propre entreprise chez vous. Okay ? Et donc, ça permet de gagner de l'argent aux femmes, d'avoir plus d'autonomie. Et ça va plus loin, et c'est ça que j'adore cet exemple, c'est pour ça qu'il a vraiment mérité ce prix Nobel. En fait, il s'est aussi utilisé ces appareils-là pour commencer à changer, d'ailleurs, avec les agriculteurs actuellement, ça peut être intéressant, c'est en fait comment les faire basculer vers, par exemple, l'agriculture régénératrice. Ou alors, cultiver des denrées qui vont devenir de plus en plus importantes. Par exemple, le millet consomme 5 fois moins d'eau et a un index glycémique moindre que le riz. Nous, on grandit avec le riz, mais il s'avère qu'il y a à peine 3 siècles, en Inde, on ne consommait pas le riz. Ce n'était pas notre staple primaire. C'était des trucs comme millet, sorghum, etc. Donc la question, c'est comment en fait, on peut adapter ces appareils-là pour aussi aider les agriculteurs à faire la transition écologique. Okay ? Donc c'est une forme de triptyque. C'est à la fois économique, social, écologique. D'accord ? Et tout ça avec des solutions très simples et frugales. Alors, parlons aussi de frugalité, l'éducation. J'ai lu cet exemple en plus en détail avant de venir parce que ça devient hyper intéressant. Donc, en fait, ça, c'est un exemple qui date de 10 ans, mais je vous décrirai rapidement l'évolution. En fait, l'idée, c'est de dire qu'il y a beaucoup de... Il y a la moitié de la population aujourd'hui n'a pas accès à l'Internet. Donc, ils ne peuvent pas aller visiter Wikipédia ou Khan Academy, hein, qui offre des tutoriels hein, en mathématiques, etc. Donc, le message clé, c'est un peu comme un slogan, si vous voulez, c'est que si l'enfant ne peut pas aller à l'école, l'école doit venir vers l'enfant. Et c'est un thème qu'on entend de plus en plus années à venir. Hein. Donc, si le patient ne peut pas aller à l'hôpital, comment l'hôpital peut venir chez lui ? Okay ? Donc, c'est comment on amène le service aux usagers. D'accord. Donc concrètement ici, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'en fait, ils ont réalisé que si l'enfant ne peut pas accéder à l'Internet, ce n'est pas grave. On va prendre le contenu comme Wikipédia ou des Khan Academy, des tutoriels dans différentes langues. Et on va mettre ça dans un microprocesseur qui s'appelle Raspberry Pi, qui a été développé par un chercheur à Cambridge University, qui coûte uniquement 35$. Et ça, c'est la version déjà high-tech. Hein. Il y a une version low-tech qui coûte uniquement 15$. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils mettent ça dans une tablette qui est installée dans une salle. Et ensuite, ils offrent d'autres tablettes qui ont été développées en Inde, qui coûtent à peu près 20€ aux enfants, qui les assemblent eux-mêmes. Donc, ça permet aussi d'apprendre l'informatique. Et donc, l'idée, finalement, c'est que, si vous voulez, il y a une espèce de serveur ici. Hein, et puis, les enfants peuvent se connecter. Ça permet de travailler hors ligne. Okay, sans être connecté à l'Internet. Okay. Et cet appareil-là est connecté à l'Internet, non pas avec l'Internet classique, mais avec une technologie de compression de données qui utilise la technologie SMS, qui est 2G. 4 milliards dans le monde n'ont uniquement que 2G. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut compresser les données, utiliser la technologie SMS pour donner accès à l'Internet. Et donc, ils peuvent télécharger régulièrement le contenu. Et ensuite, les enfants peuvent accéder à ça hors ligne. D'accord. Et durant Covid, ça a été hyper utile parce que je n'ai pas eu le temps de changer ce slide. Parce que j'ai vu cette photo hier soir, c'était magnifique. Il y avait un petit tabouret, il y avait un ordinateur portable et puis les enfants étaient assis avec les masques. C'était comme un totem en fait. Okay. C'était incroyable. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que même dans les pandémies, on n'arrête pas d'apprendre. Donc, c'est comment, en fait, une solution frugale on répond à un besoin primaire d'un enfant qui est de s'éduquer et évoluer dans sa vie. D'accord ? Et on peut faire ça avec des solutions très simples. Aujourd'hui, ça s'appelle Colibri. C'est développé par une ONG qui s'appelle Learning Equality. Vous pouvez googler. Alors, j'ai regardé les chiffres hier. Aujourd'hui, il y a 7 millions d'élèves qui utilisent ça dans 200 pays du monde et dans des langues différentes. Okay ? Alors, quand je présente ces exemples-là, souvent dans les pays du Nord, on me dit, mais bon, ça va, c'est ça les exemples low-tech. Mais nous, en Occident, on s'est envoyé un homme sur la Lune. Est-ce que vous pouvez faire ça dans le tiers-monde? La réponse est oui, on peut même aller au-delà de la Lune. La preuve, c'est qu'en 2015, la NASA a envoyé une sonde pour orbiter autour de Mars, qui s'appelle MAVEN, qui a coûté, nous, les citoyens américains comme moi, 671 millions de dollars. Alors que l'Inde a accompli la même chose avec 10 fois moins, okay, la même semaine d'ailleurs, hein, septembre 2015. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au lieu de faire des maquettes physiques qui sont onéreuses, ils ont fait la simulation en informatique parce que l'Inde a une abondance d'informaticiens. Donc j'utilise ce qui est abondant pour répondre à quoi ? Une contrainte financière. Justement, on parlait de contrainte financière. Ah ben, regardez déjà, le budget annuel de NASA, c'est 25 milliards de dollars. C'est énorme. Hein. Il s'avère que ce que la NASA dépense en 3 semaines, c'est le budget annuel de l'Agence spatiale indienne. Okay. Donc, quand vous avez un budget limité, mais des ambitions illimitées, ben, même le ciel n'est pas limite. Même l'espace n'est pas limite, en fait. D'accord. Donc, voilà. Donc, rapidement, donc nous, moi et mes co-auteurs, on a étudié beaucoup des exemples ingénieux à travers le monde. Et en fait, étant formaté à l'occidental, dans le terme de formation, on voulait en fait trouver une méthode. Parce qu'en fait, on se dit, bon, tout ça, c'est bien, ces exemples, anecdotes, mais c'est quoi la méthode, quoi ? C'est quoi la méthode d'innovation frugale qu'on peut probablement packager et vendre comme un business model canvas ou toutes ces méthodologies qu'on entend beaucoup en France. Et hélas, on n'a pas trouvé une méthode bien déterminée. Par contre, on a vu que tous ces entrepreneurs frugaux partageaient un même état d'esprit. Et cet état d'esprit qu'on appelle le jugad. Donc le jugad, c'est un mot en hindi. Je voulais aussi, alors juste un petit détail, hein, ça va devenir de plus en plus important en France, dans un monde de plus en plus polarisé. C'est un petit détail, hein, mais je vais quand même mentionner, c'est important. Et peut-être c'est même très important pour vous. Parce qu'en fait, je veux que vous appropriez ce concept en disant finalement, c'est un concept qui est protéiforme, qui est polysémique, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut, en termes d'application, vous pouvez l'appliquer soit en mode low-tech ou en high-tech. C'est tout un spectre, tout un continuum. Okay, c'est pour ça que ce n'est pas une méthode. Je ne peux pas dire de façon idéologique, c'est que du low-tech. Non. Vous allez dans le pays du Sud, ils n'aiment pas le mot low-tech. Ils disent l'eau, c'est l'eau. Avec le système de caste où je viens, le mot l'eau, ça ne passe pas. Il faut aussi être sensible en termes culturels. Okay? Par contre, ils veulent tous devenir high-tech. Ben, allons-y. Simplement, on peut faire du high-tech frugal. La même chose. On peut faire ça à petite échelle, confiné à un village, ou... J'ai entendu que vous avez une fédération bibliothèque connectée en réseau. Ben, on parlera tout à l'heure aussi. Vous pouvez aussi faire ça à grande échelle, en partageant les informations, par exemple. Okay? L'impact sera beaucoup plus grand. Okay? Donc, je ne suis pas idéologique. Simplement, ce qui est important, c'est que plutôt se focaliser sur la forme, focalisant sur le mindset, le modèle mental, le schéma mental, qui est le jugad. Le jugad, c'est un mot hindi qui veut dire, c'est un peu l'esprit MacGyver, hein, si vous voulez. Vous connaissez MacGyver ? Ah, je suis rassuré. Vous allez dire ça aux jeunes au lycée aujourd'hui, vous allez voir. Ça montre que je deviens vieux, quoi. Bon, alors, jugad, c'est la capacité ingénieuse à improviser une solution efficace dans des conditions adverses avec peu de moyens. Donc, quelques mots clés, c'est improviser, parce qu'effectivement, on ne planifie pas dans un pays comme la France qui adore la planification. Improviser, c'est toujours dur, mais des fois, il faut savoir improviser. Simplement, une improvisation qui... c'est l'arborescence dans ma tête en ce moment-là, parce que je vais aller rapide. Mais en fait, c'est pour aussi connecter avec différents livres qui sont déjà publiés, qui vous intéressera. Il y a beaucoup de livres qui sortent aujourd'hui autour du jazz. C'est comment improviser comme Miles Davis, par exemple. Cette improvisation, ce n'est pas de l'amateur. Hein, parce que les études montrent que pour improviser comme Miles Davis, il faut avoir beaucoup d'expérience. Okay? Donc, c'est une forme d'improvisation qui vient avec l'expérience. Okay? Ce n'est pas l'improvisation amateuriste, l'amateur. Deuxièmement, c'est une sollicitation efficace en ce sens que ça remplit la fonction, comme la couveuse. Okay? Elle n'est pas sophistiquée avec le DVD Wi-Fi, mais ça accomplit le boulot. Donc, c'est ça l'idée d'efficacité. Dans des conditions adverses, parce qu'en conditions adverses, finalement, les ressources sont rares. Donc, ça crée en fait une espèce de terroir favorable pour l'essor de cette forme d'inventivité, d'accord ? Et avec peu de moyens, d'accord ? Alors, je ne l'ai pas mis ici, tout à l'heure, je ne sais pas, dans question-réponse, on aura le temps, mais comme vous êtes bibliothécaire, je crois que ça vous intéressera beaucoup d'avoir ce livre. En fait, il y a un monsieur qui a écrit beaucoup là-dessus, qui s'appelle Claude Lévi-Strauss. C'est un livre qui s'appelle « La pensée sauvage », publié en 1962, où il distingue les savants des ingénieurs, okay, ou des experts. Okay. Les bricoleurs, des savants ou des ingénieurs. Donc, la différence, c'est qu'en fait, c'est très important, on est en plein dedans dans l'actualité. Hein. Donc, en fait, quand un ingénieur, un savant fait face à une adversité, il va aller trouver, il part à la quête des meilleures ressources qu'il peut trouver pour développer une solution parfaite. Le problème, c'est que le temps qu'il développe, le problème est tellement grand que c'est insurmontable. Okay. Le bricoleur, lui, c'est MacGyver. Okay. Le bricoleur, lui, regarde déjà, il ne part pas quelque part, il regarde déjà autour de lui qu'est-ce qu'il a comme ressources déjà disponibles et comment je valorise ces ressources-là pour apporter une solution good enough. Elle n'est pas parfaite, elle est suffisamment satisfaisante. Et après, je peux itérer. C'est ce qu'on appelle aussi Lean Startup, hein. C'est une méthode agile. Okay. Elle n'est pas parfaite parce que je ne suis pas là en train de construire un TGV ou une tour Eiffel. Je suis en train de développer des masques. Durant Covid, vous rappelez, c'était exactement il y a 4 ans. Et on en parlera tout à l'heure. On oublie facilement. Mais ça va revenir des trucs comme ça, d'accord ? C'est pour ça que cette idée d'improvisation est importante parce qu'on ne cherche pas la perfection. C'est quoi ? C'est Montesquieu qui a dit ça ? C'est quoi le good opposite of ? Bref, c'est-à-dire qu'en cherchant la perfection, finalement, la perfection, l'ennemi du bon, c'est ça, un truc comme ça ? C'est-à-dire que finalement, il vaut mieux chercher une solution qui marche que chercher une solution qui est parfaite, d'accord ? Dans un grand pays d'ingénieurs comme la France, c'est un grand problème. Pour ça, je dis que les ingénieurs français doivent devenir ingénieux, ok ? Et c'était d'ailleurs l'exemple, c'était le sous-titre de mon livre qui est sorti en 2013, « Redevenons ingénieux dans un pays d'ingénieurs ». Et c'est là, je suis un peu conscient du temps, je ne suis pas très frugal en temps, mais en fait, l'esprit du GAD se décline en trois grandes qualités qui consistent à devenir plus agile, plus frugal et surtout, plus inclusif. Je regardais récemment le rapport de la fondation Abbé Pierre, ça fait peur, hein, pour le logement. Okay. Ce n'est pas que ça d'ailleurs, vous allez voir. Il y a plein de chiffres, on parlera tout à l'heure. Mais bref, donc l'inclusion devient importante, même en Occident. D'accord ? Donc allons-y. Donc à partir de maintenant, il n'y a que des exemples inspirants, je rassure. Donc commençons avec l'agilité. Alors l'agilité, c'est dire finalement, c'est la même idée que frugalité, c'est-à-dire d'apprendre à voir le verre toujours moitié plein. D'accord ? Mais ça va plus loin. C'est aussi voir un problème comme l'aïkido, les arts martiaux, c'est comment je transforme le problème même en solution. Ça va plus loin, d'accord ? Par exemple, aujourd'hui, c'est intéressant, il s'est passé un truc. Alors là, ça, c'est facile, jamais arrivé. Hein. Alors là, c'est hyper intéressant. Attendez, je vais quand même vérifier si c'est le cas. Ah oui, c'est intéressant. Ah ben voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais un curveball, c'est une petite challenge qui m'a été posée pour pouvoir, parce qu'il y avait des images à droite, donc je vais vous décrire verbalement. En fait, l'image qui apparaissait là, à droite, c'était les centres de données, vous savez, les data centers. Aujourd'hui, les centres de données utilisés par, quand on cherchait sur Google ou Facebook, là, ben ça va faire traitement dans les données, dans les centres de données. Alors, data centers, aujourd'hui, consomment 3% l'électricité mondiale. Et ça va devenir 6% en 2030. Okay ? Et pourquoi 3% ? Parce qu'on utilise 1,5% pour faire fonctionner les serveurs. Et comme les serveurs réchauffent, on utilise un autre 1,5% pour refroidir les serveurs. Vous voyez cette aberration ? Pourquoi ? Parce que l'ingénieur qui conçoit ça se dit « la chaleur, c'est pas bon, c'est fatal ». On appelle ça la chaleur fatale, ça va bousiller les processeurs. Donc, il faut que j'élimine rapidement. Comme le corps, hein, c'est l'homéostasis. Hein. Elle essaie aussi d'éliminer la chaleur autant que possible, hein, sinon on meurt. D'accord ? Donc, simplement, un polytechnicien se dit, mais pourquoi cette chaleur, on l'appelle fatale ? Ça peut être une chaleur utile. Donc, il s'appelle Paul Benoît, c'est cofondateur de Carnot Computing, qui a développé des radiateurs numériques, à l'intérieur desquels on trouve des processeurs. Et ensuite, il récupère la chaleur dégagée par les processeurs pour faire chauffer les maisons et les bâtiments. Okay ? Donc l'idée, c'est aussi, c'est notre idée, je suis en train d'écrire mon prochain livre, c'est la grande idée, c'est la décentralisation. C'est la distribution, c'est-à-dire qu'au lieu de centraliser le traitement de données, je décentralise, je l'éclate. Comme ça, je disperse dans plusieurs radiateurs numériques et en même temps, ça crée une double fonction. Ça permet aussi de faire réchauffer les maisons et les bureaux. D'accord ? Et aujourd'hui, des grandes banques comme BNP Paribas, Société Générale, utilisent maintenant ce type de traitement de données distribué, qui permet aussi aux écoles, par exemple, de faire des traitements de données autour de 3D, etc. aussi. Alors, l'agilité, je reviens il y a exactement, oublions pas, 4 ans exactement, 2020, j'habitais à New York, l'épicentre de la pandémie dans le monde. Et en fait, c'est vrai que tout le monde paniquait il y a 4 ans. Mais ayant écrit beaucoup sur l'ingéniosité et la frugalité, moi, j'avais une autre perspective. J'avais mis comme des verres spéciaux pour regarder, en fait, est-ce qu'il y a des exemples dans le monde ? Alors ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que le jugad, j'ai dit, ça, le terreau favorable, c'est l'adversité, certes. Mais il y a aussi un autre terreau, c'est quand les grandes institutions, le gouvernement, les grands groupes, ne sont pas capables d'intervenir pour apporter une solution à la situation. C'est là que le jugad explose. C'est ce qu'on appelle un institutional vacuum. Quand il y a un vide institutionnel qui se crée, c'est comme si tout d'un coup, les citoyens retroussent le manche et disent finalement, on ne peut pas faire confiance aux grands qui sont dans les institutions. C'est à nous de prendre en charge nos destins. Okay? Et donc, j'ai étudié durant Covid, j'habitais à New York, autour du monde. Aux États-Unis, je voyais comment ce pays le plus riche au monde n'arrivait pas à improviser pour développer des respirateurs et des masques. Par contre, j'ai vu ces exemples très inspirants dans les pays du Sud. Par exemple, en Italie, où le docteur Renato Favero s'est associé avec Christian Fracassi pour adapter des masques de plongée Décathlon en respirateurs, sauvant ainsi des milliers de vies, parce qu'ils ont mis le composant qui est imprimé en 3D en open source. Donc, n'importe qui peut télécharger et l'imprimer à une impression 3D. On a aussi vu 200 couturières dans le Morbihan qui sont auto-organisées en un collectif pour fabriquer 172 000 masques de tissu en temps record de 2 mois. Okay. Et puis surtout, c'est aussi ça qui était... C'est passé totalement inaperçu, malheureusement. Même si Macron est allé visiter l'usine le 30 mars 2020, Macron est allé à l'usine de Colmy Open, qui est le plus grand fabricant de masques en France, pour les féliciter pour avoir doublé leur fabrication de masques en temps de record. Mais comment ils l'ont pu le faire ? C'est parce qu'en fait, l'usine située à Angers est située à proximité d'une autre entreprise qui s'appelle Scania. Et donc, en fait, Scania a prêté temporairement leur employé à Colmy Open. Et donc, grâce à cet accès aux expertises, ils ont pu doubler, reconfigurer l'usine et doubler la fabrication de masques. On appelle ça le partage des ressources. D'ailleurs, je crois que c'est un slide, oui. Ça a été développé, on critique beaucoup justement les instances publiques. Simplement, ça, c'est les instances publiques de la région. Ça s'appelle Solutions Eco, qui est l'agence de développement économique de Pays-la-Loire. Ils ont créé une plateforme de partage de ressources, de mutualisation et de partage de ressources pour les entreprises du territoire. Et ensuite, chaque territoire dans Pays-la-Loire, comme par exemple Angers, métropole, on l'adaptait pour les entreprises du territoire. Et c'est grâce à ça que Colmy Open a pu identifier rapidement que, ah tiens, juste à côté de moi, il y avait Scania, une autre entreprise, qui a des compétences dont j'ai besoin pour pouvoir reconfigurer mes processus industriels et doubler la production de masques. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est en train de développer beaucoup en ce moment, qu'on appelle le partage de ressources inter-entreprises, inter-organisations. Et on en parlera tout à la fin quand je conclue avec des conseils. Alors, deuxième pilier de l'innovation ingénieuse et frugale, c'est justement la frugalité. Alors, c'est là qu'on va vraiment parler de cette idée qu'aujourd'hui, il y a des ressources qui vont manquer de plus en plus. Ça peut être l'argent, l'eau. Vous avez entendu qu'à Barcelone, en Catalogne, par exemple, ils sont en train de créer des restrictions d'eau depuis avant-hier. Donc, des ressources naturelles vont se tarir. Donc, effectivement, il faut pratiquer la sobriété. Donc ça, c'est malheureusement présenté comme une injonction. Mais moi, ce que je recommande, c'est aussi, en parallèle, identifier des ressources existantes, que ce soit dans votre bibliothèque ou alors dans votre territoire ou dans votre réseau, pour pouvoir appliquer votre ingéniosité pour mieux valoriser ces ressources-là. Alors, vous pouvez les valoriser individuellement ou collectivement avec des plateformes qui permettent de mutualiser et partager les ressources. Quelques exemples concrets. Je reviens encore une fois à cette idée de voir le verre toujours moitié plein. Aujourd'hui, l'eau se tarit, mais c'est toujours se dire, mais au lieu de focaliser sur qu'est-ce qui me manque, je regarde qu'est-ce qui existe déjà en abondance. Ben, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, donc pourquoi pas transformer l'humidité en l'air, en eau potable. C'est ce que fait la start-up israélienne Watergen, qui a développé une technologie pour convertir l'humidité de l'air en eau potable. Il le purifie aussi. Et ça se décline à différentes échelles. Ça peut être une unité portable, déployée par exemple aujourd'hui en Gaza, on n'en parle pas malheureusement, ou en Ukraine, ou alors ça peut être dans les zones sinistrées. Ou alors ça peut aussi être à plus grande échelle, qui peut être installée carrément dans, par exemple, Centre Pompidou, si vous voulez. D'accord ? Donc ces différentes échelles déclinent. Pareillement, aujourd'hui, il y a 50 milliards d'objets qui sont connectés à l'Internet. Donc, d'ici 10 ans, tout ça sera connecté. Hein, l'Internet, c'est sympa. Le problème, c'est que tous ces objets connectés utilisent des batteries, qui est une catastrophe écologique. Donc, la question, c'est comment, en fait, ces objets-là peuvent devenir ce qu'on appelle autopoétiques ou qui peuvent générer leur propre électricité. C'était l'idée qui a amener une start-up à Valence qui s'appelle Dracula Technologies a développé une technologie qui permet d'imprimer des cellules photovoltaïques version miniature qui peut être intégrée dans des objets quotidiens, des thermostats, des détecteurs de fumée ou même votre sac à dos pour pouvoir les alimenter en énergie en récupérant les photons qui sont dans notre ambiante, ok, l'électricité ambiante, l'énergie lumière ambiante. Pourquoi ils appellent ça Dracula ? C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des photons partout. C'est-à-dire que même dans des endroits sombres, la lumière est toujours présente. Même dans l'ombre, la lumière est toujours présente. Okay ? D'ailleurs, vous pouvez même regarder, ils ont une espèce d'échantillon qu'ils peuvent envoyer. Hein. En fait, ils ont intégré, c'est une petite carte, et puis dedans, il y a une espèce de petite lampe, si vous voulez. Hein, je ne l'ai pas ici. Vous pouvez l'amener même d'endroits les plus sombres. C'est toujours allumé. Okay. Et donc, ça montre finalement, la lumière est toujours présente, même dans l'ombre. Okay. Et donc, c'est un exemple qui me plaît beaucoup parce qu'effectivement, ça montre aussi que, et c'est une idée très intéressante, c'est en fait comment le dernier kilomètre ou le dernier mètre, ces expressions qu'on utilise dans le monde logistique, Amazon utilise ça, etc. C'est comment comme dernier kilomètre représente en fait le point de consommation. C'est comment je transforme le dernier kilomètre, le premier mètre, en consommateur, qui est aujourd'hui consommateur passif, en producteur actif. On le voit déjà avec ce qu'on appelle la distribution distribuée de l'électricité, etc. C'est comment, en fait, le dernier mètre devient le premier mètre de génération de valeur. Pareil, aujourd'hui, comment, en fait, on peut produire des vêtements en France, sachant qu'on ne produit pas de coton. Ben, on peut recycler les vieux vêtements. C'est ce qui se passe en Mayenne avec la plus grande usine de recyclage de vêtements qui s'appelle Renaissance Textile, qui a démarré l'an dernier et qui aujourd'hui, cette année, va recycler 30 millions de vêtements par an, tout en favorisant l'insertion sociale. Okay. Enfin, finalement, pour conclure, le côté inclusif. C'est, pour moi, l'inclusion, c'est dire, je vais conclure avec deux exemples rapidement, parce que c'est dire finalement, l'inclusion sociale, aujourd'hui, il y a la double urgence. Il y a l'urgence sociale, il y a l'urgence écologique. Aujourd'hui, on les traite séparément. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de start-up qui s'attaquent à ces doubles problèmes de façon systémique. Okay. Comme Alix Louise Katia, qui ont fondé une biscuiterie à Nantes qui s'appelle Andy Gaspi, qui en fait valorise les invendus alimentaires dans une ESAT qui emploie des personnes handicapées. Okay. Donc, simultanément, ils combattent l'exclusion sociale et aussi le gaspillage alimentaire. Okay. Pareillement, il y a un village sur deux aujourd'hui n'a plus de commerce. Donc, Virginie Hills, à Lyon, a lancé Comptoir de campagne, qui est un magasin multiservice, qui sont aussi des lieux conviviaux, qui offrent des produits qui sont sourcés en circuit court. Okay. Aujourd'hui, elle est en train de déployer ça en mode de franchise à travers la France. Okay. Donc c'est pareil, c'est à la fois utilité sociale, mais aussi ça permet de combattre la solitude des personnes âgées, etc. etc. Ça s'appelle comptoir de campagne. Okay. C'est comment en fait on redynamise les territoires et en même temps on crée des liens sociaux. Alors, j'ai juste 3 suggestions et je suis désolé d'aller un peu... J'étais pas très frugal dans mon temps, mais je voulais quand même que ça soit un petit peu concret pour vous parce que je me suis dit, tiens, il y a peut-être 3 pistes à explorer qui peuvent être intéressantes. Donc, j'ai déjà offert quelques bonnes pratiques. Hein. On a étudié ça jusqu'à présent. Mais je voulais être un peu plus précis avec des exemples de chez vous. La première chose, je pense, c'est comment envisager que les bibliothèques demain peuvent encourager et valoriser à la fois le faire et le savoir. J'ai appris récemment qu'il y avait cette initiative qui s'appelle Labenlib, qui a installé apparemment des Fab Labs dans les bibliothèques, comme on voit ici dans la médiathèque Olivier Léonard de Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc les Fab Labs, des makerspaces, vous connaissez bien, c'est des ateliers où les gens peuvent venir bricoler, justement développer. C'est dans un Fab Lab comme ça que Christian Fracassi, en Italie, en Lombardie, a développé, donc adapté les masques de Décathlon en respirateur. C'était dans une Fab Lab comme ça. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est comment on valorise le faire autant que savoir. Pourquoi ? Parce que l'enseignement demain, comme j'expliquais tout au départ, c'est pas uniquement apprendre des choses théoriquement, de façon théorique, mais l'enseignement demain va être empirique. C'est en faisant qu'on va apprendre. Moi, je m'emmerdais totalement dans les cours de physique, chimie, tout ça, parce que c'est trop abstrait pour moi. Okay? Moi, j'aimais bien le faire, okay? Et apprendre de façon empirique, hands-on. Okay? Donc, je pense qu'il y a une sacrée opportunité pour les bibliothèques de penser à comment concilier faire et savoir de façon synergique. Je ne sais pas, peut-être ça peut être un partenariat avec l'AFPA, des trucs comme ça à explorer, quoi, hein? Donc, ça peut être des alliances possibles à explorer. Deuxièmement, étant américain, je trouve ça scandaleux que la polarisation, c'est même l'hyperpolarisation politique, s'étend aujourd'hui aux bibliothèques, au point où il y a pas mal de bibliothèques dans les États du Sud américains qui sont en train de bannir des livres contenant des passages de caractère sexuel ou même qui promeuvent le DI, hein, ce qu'on appelle diversity, la diversité et l'inclusion. Des sujets sur la race, tout ça, ils veulent totalement qu'il n'y ait plus ça dans les bibliothèques. Okay. Donc je pense que, moi ça fait 2 ans que je suis retourné de l'Amérique pour venir vivre en France, et je dois avouer que ce qui me plaît beaucoup quand je vais dans les librairies ou dans les bibliothèques, c'est la pluralité des perspectives qu'on trouve. Okay. La raison, c'est parce qu'en fait, les bibliothèques, c'est un tiers-lieu. Mais moi je pense, dans un monde qui est devenu de plus en plus polarisé, avec ce que j'appelle la pensée binaire, il faut aussi peut-être que la bibliothèque française devienne un lieu qui cultive ce que j'appelle la conscience ou la pensée ternaire. Okay? On essaie en fait de concilier la binarité, les oppositions, les contradictions. Okay? Et on ne peut pas le faire si on choisit un camp. Parce que là, vous devenez unaire, hein? Même pas binaire. Okay? Donc l'Amérique est en train d'évoluer de binaire à unaire. Hein? Donc nous, on doit aller dans l'autre sens. Okay? Donc il faut aller vers le ternaire. Okay? Troisièmement, je pense qu'il faut vraiment penser à cette idée de comment vous pouvez partager, mutualiser vos ressources. Donc j'ai écrit un rapport sur ça, vous pouvez lire en googlant, avec le think tank Terra Nova, le partage B2B de ressources. Mais aujourd'hui, c'est mis en place par des collectivités à travers la France. Je suis fier parce que les Amériques, j'ai cherché, aucun État américain ne l'a fait encore. Il y a 20 territoires en France qui le font déjà. Okay? Simplement, ils le font aujourd'hui pour encourager le partage de ressources entre entreprises. Mais je me dis, finalement, pourquoi pas aussi favoriser le partage de ressources entre bibliothèques. Alors, ces ressources, pour conclure, c'est important. Ça peut être des ressources physiques, des bâtiments, du personnel, tout ce qui est matériel, hein, mais aussi des trucs intangibles. Okay? Ça peut être des bonnes pratiques, des propriétés intellectuelles, etc. Bref, il y a tout un continuum, encore une fois, de ressources allant du hyper tangible à l'hyper intangible qui peut être mutualisé, partagé et valorisé ensemble à travers ces plateformes-là, okay, ou des communautés de partage. Voilà. Donc, si vous voulez apprendre plus, c'est un dernier livre qui est sorti cette année qui s'appuie sur un tour de France que j'ai fait pendant 8 mois pour aller découvrir justement les territoires ingénieux et mettre en valeur ces innovateurs Jugad. Voilà, je suis vraiment navré d'être allé au-delà de mon temps alloué, mais je vous remercie pour votre attention et je serai là toute la journée avec vous si vous avez des questions. Merci.
Donc à vous.
ou pas.
Je sais que c'est un peu matinal, mais s'il y a quelqu'un, commencer ici.
Bonjour. C'est une question un peu globale, mais du coup, pour vous qui avez une vision comme ça assez vaste des solutions, des choses ingénieuses, des créations qui sont dans un contexte social, économique, écologique compliqué, est-ce que ça vous rend confiant dans l'avenir ?
Bien sûr, ça me rend tellement confiant parce que je suis en train d'écrire mon prochain livre qui s'appelle « L'économie frugale » parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ces solutions dont vous parlez, finalement, c'est les arbres individuels. Et modestement, j'ai réalisé que j'ai loupé en fait la vue de la forêt. Et bien, la forêt qui est en train d'émerger, c'est une nouvelle économie, c'est une nouvelle société. Et ça, je ne savais même pas, parce que je me focalisais trop sur les solutions. Et donc la réponse, oui, parce que ça me rend confiant. Parce que, alors il faut savoir pourquoi ça me rend confiant, parce qu'en fait, ces changements de paradigme prennent au moins une génération. Okay. Donc pourquoi ça me rend confiant? Parce que, alors c'est à la fois confiant, mais je suis de nature impatiente. Et la grande leçon de vie depuis quelques semaines que j'ai appris, hein, c'est très personnel, c'est qu'en fait c'est des changements, peut-être c'est mon âge, j'ai 54 ans cette année, en fait ça va prendre du temps. On ne peut pas comme ça changer de paradigme, modèle sociétaux. Okay? Donc ça c'est dur pour moi pour accepter. Étant américain, vous savez, go. Et bien justement, c'est l'Amérique. J'ai passé beaucoup de temps depuis 6 semaines à faire la recherche. En fait, c'est l'Amérique qui est en train de faire la bascule. Alors, pourquoi ils font la bascule? C'est très simple. Bien plus vite que je pensais, la France, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Amérique, c'est, comme vous savez, c'est la prépondérance de l'économie. L'Amérique appelle la transition écologique le « transition economy », l'économie de la transition. Donc, eux, ils voient dans la transition, en fait, une opportunité. Ah, pardon. Ils voient dans la transition une opportunité pour totalement... repenser l'économie, avec des retombées sociales, écologiques, certes, mais pour eux, c'est des trillions de dollars, cette nouvelle économie. Donc, au lieu de dire « Ah, l'ancien monde s'écroule et on va tout faire avec des lobbying pour défendre ça », eux, ils disent « On va laisser tomber l'ancien monde et on va devenir l'architecte du nouveau monde, qui va avoir un triptyque, impact économique, social, écologique. Hier soir, je regardais dans, comment on dit en français, l'Appalachian, la région d'Appalaches, qui est, voilà, Ohio, tout ça. Vous savez, c'est la région la plus pauvre. Hein. C'est là, il y a un programme qui s'appelle Réimaginer Appalachia. C'est en fait un collectif d'acteurs civils, publics, privés, etc., qui sont associés pour dire comment on va aller d'une région la plus pauvre, la plus toxique au monde, parce que c'est là qu'ils ont pompé le gaz et le pétrole, etc., à le pionnier des énergies renouvelables. Okay. Donc cette idée de cette transition qui est en train de se passer dans le monde, pas partout, hein, là, et c'est pour ça que je suis très inspiré par ça, mais oui, je ne dois pas dire ça, je m'inquiète un peu pour la France, parce que j'ai l'impression qu'on allait très vite dans la bonne direction, après on a stoppé. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'aller faire marche arrière, quoi. Donc, par contre, ça, c'est au niveau national. Attention. C'est pour ça que j'ai mis le dernier slide. Par contre, la vraie bascule a lieu dans les territoires. Okay? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quitté Paris. Hein, je suis très parisien. J'ai quitté Paris il y a 2 ans pour aller vivre dans les provinces, dans les territoires à travers la France. J'habite maintenant à Lyon. Alors là, c'était totalement différent. Donc la différence, alors il faut savoir un truc, hein, c'est pour ça que vous êtes dans les régions, je pensais tout à une idée qui me vient. Je donnais la statistique, après vous pouvez discuter entre vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, ça va peut-être vous intéresser beaucoup. Les études des chercheurs de l'Université de Franche-Comté montrent que la presse régionale publie 4 fois plus d'articles sur les innovations disruptives qui ont lieu en France que la presse nationale. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe à la pointe de, je ne sais pas moi, l'hydrogène, bâtiment durable, prochaine génération, etc., il ne faut pas lire Le Monde. Okay? Il faut lire La Voix du Nord ou tous les journaux, même, je dirais même, au-delà des régions, hein, carrément locaux, hein, si vous voulez. Quoi. Et c'est ce que j'ai fait quand je voyageais à travers la France. Je lisais dans les cafés, tout ça, je lisais les quotidiens locaux. Eh bien, c'est là que je trouve l'exemple. Les solutions dont vous parlez, ben, ils sont là. Pas dans les échos, dans Le Monde. Okay. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être aussi intéressant pour vous, en tant que quand vous êtes implanté dans les régions, c'est comment faire remonter ces solutions-là. Okay. Parce que si vous regardez uniquement qu'est-ce qui est diffusé de façon dans les médias hein, national, là, c'est déprimant. Donc, en fait, il y a une réalité qui est communiquée à travers les médias nationaux qui peut être déprimante. Et puis une réalité, la vraie réalité, dans les territoires, qui, elle est beaucoup plus inspirante. Voilà. D'autres, oui, juste à côté.
Bonjour, et merci beaucoup. J'ai trouvé réellement une présentation très inspirante. Je crois que je me suis trouvée très... identifié avec ce que vous avez présenté. Et je trouve que les bibliothèques sont un service clé pour promouvoir cette ligne d'action dans la société. Et mon expérience est que si nous donnons des ressources aux citoyens, il y a des résultats, et il y a des résultats parce qu'on les laisse travailler. On les laisse exprimer, on fait des prototypes. Dans la pandémie, dans nos bibliothèques, les citoyens, ils ont fait beaucoup de masques pour les cliniques, les hôpitaux et tout ça. Et c'était une solution, un prototype, qui sont les citoyens qui ont décidé, ils ont travaillé pour le faire. On avait les machines 3D jour et nuit travaillant pour faire ça. Et il y a aussi, on fait aussi des solutions, des machines pour les hautes gastronomies, mais avec des bas ressources et qu'on arrive à fonctionner même et on peut le faire à la maison. Et c'est vrai que les systèmes économiques qu'on a, il paraît que tout doit être parfait, tout doit être cher. Mais ce n'est pas vrai. Et l'unique chose que je pense qu'on doit faire, c'est donner des moyens faciles. Et les bibliothèques, c'est, pour moi, c'est la clé pour développer tout ce mouvement de création des prototypes et de transversalité des connaissances. Et je me suis trouvée très, très identifiée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci. Et je voulais juste rebondir deux points qui vous intéresseront. Justement, la Commission européenne va commencer cette année un grand projet qui s'appelle Francis, dans le cadre d'Horizon 2030, qui est le programme de financement de l'innovation, qui va justement encourager l'innovation citoyenne, donc le bottom-up innovation, autour de l'innovation frugale. De dire finalement, l'innovation frugale, ce n'est pas uniquement des choses qui se passent dans les grandes entreprises. On va en fait encourager les citoyens à s'approprier de ce concept-là et développer eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle la science citoyenne, des solutions frugales pour leurs problèmes locaux. Et c'est là que je me suis dit, tiens, peut-être la bibliothèque peut être un lieu justement, parce qu'il faut quand même un tiers-lieu pour faire venir citoyens, pour justement, de façon collaborative, ils peuvent développer des solutions frugales. Ça, c'est un premier point. Un deuxième truc qui me vient à l'esprit quand vous disiez ça, c'est qu'effectivement, Le grand drame actuellement, pourquoi on sent un peu cette déprime actuellement à travers le monde, c'est qu'en fait, les citoyens ont l'impression qu'ils sont impuissants. Ils pensent qu'à leur échelle, ils ne peuvent pas impacter. Parce qu'encore une fois, on fait communiquer, on voit les centrales nucléaires, on met en valeur des solutions qui sont tellement complexes que moi, en tant que citoyen lambda, je me dis, mais moi, je ne peux pas. À mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est pour ça aussi qu'à travers ces solutions-là, je veux montrer c'est que comment la bibliothèque peut donner confiance aux citoyens, c'est qu'à leur échelle, au niveau local, ils peuvent quand même contribuer et apporter des solutions. Voilà. Merci beaucoup.